Bonjour Gladys.
Bonjour.
Pour te présenter rapidement, tu es conseillère conjugale et familiale au planning familial de la Drôme.
Tout à fait.
26, tu exerces plutôt sur Valence et Rouen.
Ouais.
Et si on te reçoit aujourd'hui, c'est pour parler d'une actualité pas très heureuse qui concerne l'alerte sur les centres de santé sexuelle en Drôme et les baisses de subventions au planning familial. Est-ce que, pour commencer, pour le mot du début, est-ce que tu veux nous dresser un peu un cadre de cette situation?
Oui, tout à fait. Alors, il y a à peu près 2 ou 3 semaines, le département a annoncé, en fait, à ses agents la fermeture des 7 centres de santé sexuelle départementaux, donc des services publics, qui se situent à Die, Pierrelatte, Haute-Rive, Saint-Jean-en-Royan, donc ici, Livron-l'Oriole, Méliès à Valence et à Portes-les-Valences. Dans la foulée, ils ont annoncé au planning familial et au centre de santé sexuelle hospitalier une baisse de subvention à hauteur de 20%.
Alors, pour que les auditeurs et auditrices y voient clair dans le paysage, quelle est la différence entre un centre de santé sexuelle départemental, les hospitaliers dont tu viens de parler, et le planning familial?
En réalité, il n'y a pas de différence, si ce n'est notre mode de gestion. Les centres de santé sexuelle, ce sont des centres où les personnes peuvent venir pour, d'une part, avoir des entretiens individuels pour parler, poser des questions sur leur sexualité, leurs relations familiales, amoureuses, sexuelles, etc. L'idée, c'est d'offrir en fait une écoute et une information qui soit non jugeante et de qualité. À côté de ça, les centres de santé sexuelle proposent des consultations médicales en termes de contraception, de suivi gynécologique, de dépistage des infections sexuellement transmissibles et au planning familial et dans les hôpitaux, on propose également de réaliser les avortements par voie médicamenteuse. Les centres de santé sexuelle, en fait, ils sont soit gérés par des départements, soit gérés par les hôpitaux, soit gérés par une association. Et dans la très large majorité des cas, c'est l'association du planning familial qui va gérer le centre de santé sexuelle. En Drôme, nous avons donc 7 centres de santé sexuelle départementaux, avec donc des agents du département. Le planning familial, nous avons Romans-sur-Isère, Valence, Nyons, et des permanences à Dieulefit et Buis-les-Baronnies. Et ensuite, il y a les hôpitaux, donc je ne vais pas en oublier, il y a Romans, Valence, Montélimar, Écré, où il y a aussi des centres de santé sexuelle.
Donc là, tu viens de bien dresser ce paysage-là. Ça permet à tous les habitants et habitantes, notamment dans nos contrées rurales, d'avoir accès à des soins, de l'information, de l'écoute. On l'a dit, plutôt sur la santé sexuelle, mais aussi sur les questions des violences. Mm-hmm. Toi, dans ton travail de conseillère conjugale et familiale, c'est des choses que tu fais régulièrement, de l'accueil sur ces questions-là?
Oui, en fait, quand les personnes viennent nous voir, j'ai peut-être oublié une information importante. Les centres de santé sexuelle, on propose des services qui sont gratuit, d'accord. C'est ça aussi qui permet à tout le monde de venir nous voir. Et surtout, on assure la confidentialité de nos échanges. La sexualité, les relations, c'est des choses qui sont intimes. Et du coup, c'est important d'avoir des endroits où on peut venir s'exprimer et effectivement venir chercher de l'aide.
Et même pour les mineurs.
Exactement, même pour les mineurs. En fait, régulièrement, nous, dans nos entretiens et dans nos consultations médicales, on vient nous voir pour une question de dépistage, une question de contraception. Et au moment de nos échanges, on va discuter des relations et de ce qui se passe pour la personne. Et c'est souvent à cette occasion qu'on va avoir les premières révélations de violence. C'est ça aujourd'hui qui est quand même assez, qui nous trouble. Aujourd'hui, on sait qu'il y a 1 enfant sur 10 qui est victime de violences sexuelles dans le cadre de sa famille. On sait aujourd'hui que les femmes sont particulièrement vulnérables face aux violences sexuelles et conjugales. Les personnes LGBT, les personnes porteuses d'un handicap, on en parle de plus en plus, c'est de plus en plus médiatisé. Les politiques sont amenées à prendre des décisions fortes sur ces sujets. Ils le font d'un point de vue médiatique. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on observe? Des coupes budgétaires et des fermetures. Au-delà de l'aspect de l'accès aux soins sexuels, à l'accès aux droits sexuels et reproductifs, c'est un vrai abandon sur la question des violences. Alors certes, le département n'est pas le seul
acteur
à gérer cette question-là, mais il en fait partie. Et on ne peut pas, dans ce contexte actuel, juste fermer des centres, diminuer des subventions en espérant que d'autres personnes s'en saisissent. C'est un vrai désengagement.
Et ce désengagement, effectivement, tu le dis, prend place dans un contexte où, effectivement, on est à l'ère post MeToo, des procès ont lieu et sont médiatisés pour inciter les personnes à parler, les victimes. Là, on parle de la libération de la parole, alors bon, on pourrait revenir sur ce terme-là, mais en tout cas, c'est vrai qu'on pourrait se dire que c'est un sacré recul en arrière que le département se désengage, même s'il y a d'autres acteurs financiers. Qu'est-ce qui justifie cette coupe budgétaire au niveau du département ?
Eh bien justement, c'est un peu la question mystère. Ce lundi, nous étions au débat d'orientation budgétaire qui se tenait au Conseil départemental de Valence. Donc moi, j'y étais en tant que salarié du planning familial et on y était avec des collègues des centres de santé départementaux. En tant que conseillère, on était aussi des sages-femmes, des médecins. Enfin, on était plusieurs à se réunir pour assister à ce débat qui est du coup une séance publique. On n'avait pas le droit à la parole, bien sûr, mais on pouvait assister aux échanges et ils ont été... J'allais dire instructif et finalement assez nébuleux. Aujourd'hui, donc, le département, la présidence, en tout cas du département, déclare qu'il faut faire des économies. C'est un discours qu'on n'entend pas uniquement dans la Drôme, hein. C'est un discours qui est partagé même au niveau national. On le voit avec le budget 2025. Ok, très bien. Cependant, ces décisions ont été commencé à être prises avant même qu'on parle du budget 2025, d'une part. Et d'autre part, lors des débats, il n'a pas été dit à combien s'élevait réellement l'économie réalisée avec la fermeture des centres de santé sexuelle. Nous, ce qu'on demande, c'est une véritable aussi transparence sur les décisions. Combien on coûte ? Pourquoi on fait des économies là-dessus ? Pourquoi on fait des économies sur l'accès aux soins, sur la santé des Drômoises et des Drômois, et pas, par exemple, sur les routes sublimes au hasard, je prends cet exemple. Non, mais c'est au-delà de l'aspect budgétaire, c'est un véritable choix politique, là où on décide de faire des économies et là où on décide, au contraire, d'investir. Pourquoi on investit pour les touristes ? Pourquoi on n'investit pas, en fait, pour les habitants et les habitantes de la Drôme ? Il a été dit qu'effectivement, on avait certains centres où il n'y avait, par exemple, aucune consultation. Alors là, j'avoue qu'on est quand même vraiment tombé des nues par... je ne sais pas si c'est de la malhonnêteté ou une maladresse, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais en réalité, dans les centres de santé sexuelle, quand on n'assure pas des consultations, on est en intervention collective. Auprès des établissements, on parlait de la MGEN ce matin, par exemple, dans les établissements scolaires, dans des centres sociaux... C'est d'ailleurs au moment de ces interventions hein, où on fait de la prévention, on discute, qu'on a également aussi des révélations de violence. Ces interventions, elles sont essentielles. Il est malhonnête de dire qu'on n'a pas de consultation alors qu'en fait, on pourrait travailler deux fois plus que ce qu'on fait actuellement. Enfin, en tout cas, ça nous trouble beaucoup. On aimerait bien avoir plus d'informations sur la façon dont ils comptent au département.
Et c'est une histoire de reconnaissance aussi. Effectivement, quand vous n'êtes pas là derrière votre bureau en tant que conseillère à recevoir du public, c'est qu'effectivement vous êtes en intervention. Et on le disait que effectivement l'éducation à la vie affective et sexuelle sont une possibilité à chaque personne d'avoir des informations. Mmh. Et on rappelle également que c'est dans la loi. Oui. De 2001 qui prévoit ces séances. Évidemment, on le sait au niveau national, mais également au niveau départemental, que ce n'est pas encore pourvu, mis en place, et que là, ça va être des centaines d'heures d'animation annulées.
Oui, franchement, je ne comprends pas comment ils vont pouvoir pallier cette suppression en fait de conseillères. Et enfin, qui va assurer ces animations ? Les professeurs qui sont déjà surchargés, la plupart ne sont pas formés. Et puis, en fait, on est dans un contexte. C'est quand même, enfin, c'est terrible. On a le rapport de la Civis qui parle des violences faites aux enfants. On a le rapport de l'IGAS qui parle des violences en milieu rural où on est quand même plus vulnérable du fait de l'éloignement de nos services publics. On a dans la région Auvergne-Rhône-Alpes une augmentation des cas de transmission du VIH/SIDA. Enfin, aujourd'hui, si il y a bien un dernier endroit où il ne faut pas retirer des subventions et de l'engagement, c'est bien au niveau de la santé sexuelle. Et toutes ces heures-là d'éducation à la vie affective et sexuelle dont on parle énormément en ce moment, où il y a beaucoup d'ailleurs de propos, si ce n'est complotistes, un petit peu exagérés sur ces séances, et il faudrait y revenir, ces heures-là, c'est réellement l'occasion d'aller répondre à des questions des jeunes sur la sexualité, mais pas que...
sur le lien
sur l'amour ensemble. Mais clairement c'est des questions de crush, de comment est-ce que je peux dire à quelqu'un que je t'aime, bon, des questions qui concernent les jeunes
et les
moins
jeunes.
Sur
le corps en général.
Oui, sur le corps, la puberté, le consentement, c'est un mot qu'on utilise beaucoup mais qui est pas forcément toujours bien compris. Et ces heures-là, enfin, elles sont essentielles. On peut pas d'un côté dire qu'on va lutter contre les violences faites aux femmes et aux enfants, aux personnes LGBT, et d'un autre côté, en fait, enlever tous les moyens concrets de terrain. Enfin, il y a quelque chose là qui, si ce n'est de l'hypocrisie,
Qui est un peu schizophrénique, ouais.
Ouais, paradoxal en tout cas.
Mais de toute façon, l'éducation à la vie affective et sexuelle, depuis, j'ai envie de dire, depuis les ABCD de l'égalité, on pourrait dater de là ou même avant, a toujours été une marotte qu'on agitait pour effrayer les parents, notamment. Et là, effectivement, dans le débat médiatique, on les entend. Alors, les fake news ressortent. Même, alors, il y avait déjà eu le retrait des ABCD de l'égalité, qui était déjà, à cette époque-là, un recul. Et pourtant, les plannings familiaux, les centres de santé sexuelle continuent à travailler, continuent à se mobiliser. Et là, effectivement, on assiste comme une forme de backlash, enfin de ce qu'on pourrait appeler un retour un peu réactionnaire sur ces questions-là, quoi.
Oui, moi, j'ai juste envie de dire une chose à tous les parents qui nous écoutent, que vous ayez des inquiétudes concernant l'éducation à la vie affective et sexuelle, on peut le comprendre, surtout avec tout ce qu'on entend, c'est normal d'avoir des craintes, des peurs, etc. N'hésitez pas à venir nous poser des questions. On doit travailler ensemble et on est vraiment là pour aussi répondre à vos inquiétudes. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et effectivement, je te rejoins. En fait, là, moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'on est quand même dans un contexte réactionnaire, pour pas dire d'extrême droitisation, en fait, du contexte politique, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. C'est quand même inquiétant de voir aujourd'hui les droits sexuels et reproductifs, les droits des femmes, reculer. Parce que c'est exactement ça qui se passe. On avait Larcher, le président du Sénat, qui nous disait « Allez, ça va, les meufs, arrêtez de vous inquiéter, le droit à l'avortement, c'est acquis. » Ben écoute, mon coco, preuve que non, en fait. Et ce qu'on parle dans la Drôme, c'est quelque chose qui se passe ailleurs aussi. On n'est pas les seuls concernés. Ce sont des petites choses, sous prétexte de coupes budgétaires, d'économies, de vous comprenez, faut être efficient, etc. En fait, c'est une véritable attaque de nos droits et de nos libertés. Et je pense qu'il faut vraiment le remettre dans le contexte politique actuel. C'est pas anodin. En tout cas, si c'est une économie budgétaire, c'est aussi un choix politique.
Oui, et c'est effrayant, et en plus ça concerne tout le monde. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui concerne une minorité, et quand bien même, mais en tout cas ça concerne vraiment tout le monde. Si on va un peu sur les conséquences de ces décisions, est-ce que t'as un peu des chiffres ou concrètement qu'est-ce que ça va changer? Alors on a parlé un peu d'éducation, donc il y aura des centaines d'heures d'animation en école, collège, lycée ou MFR qui vont être annulées.
Tout à fait.
Et donc pas remplacées puisque les professeurs, on l'a dit, ne sont pas formés et ils sont déjà débordés. Donc ça c'est contre la loi. On le disait, de 2001, qui prévoit ces trois séances. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre comme impact concret?
Mais c'est là où, justement, on a été extrêmement déçus des réponses apportées au débat d'orientation budgétaire, puisque c'est des réponses qui sont lunaires et complètement déconnectées, en fait, des réalités de terrain. Si aujourd'hui, les CSS départementaux ferment à Pierre-Latte, à Saint-Jean, à Porté-les-Valence, où vont aller les personnes qui ont besoin de nos services? Alors, on nous dit pour les dépistages dans les laboratoires. Dans les laboratoires, on ne peut pas y aller de façon anonyme. Quand on est mineur, on doit être accompagné par une personne majeure. Les laboratoires, ce sont des personnes extrêmement compétentes dans leur domaine, mais elles ne sont ni là pour informer, ni là pour écouter. C'est pas le tout de savoir si j'ai une chlamydia. Le tout, c'est de savoir quels sont les risques que j'ai pris et comment je peux m'en prévenir pour la prochaine fois. Puis parfois, c'est parler aussi de sa relation, de se dire bah, qui c'est qui me l'a refilé, etc. Est-ce que c'est pertinent? C'est quand même ça qu'on va offrir. Les conséquences, c'est une jeune femme de 17 ans qui découvre une grossesse et qui ne sait pas quelle décision prendre. Elle va aller chez son médecin généraliste, qui vient au pique-nique ou au barbecue le dimanche chez les parents. Où est-ce que va aller cette jeune fille? C'est consultation de couple. Effectivement, tu le disais, ça concerne pas que les, c'est pas que les jeunes, c'est pas que les femmes. On a aussi des personnes de, je sais pas, 50, 60 ans qui viennent pour parler de leurs difficultés au sein de leur couple et on est là pour leur apporter une écoute, encore une fois, gratuite et confidentielle. Où vont concrètement aller ces personnes? Et au débat d'orientation budgétaire, on nous a répondu, les labos et les pharmacies. Mais enfin, on voit bien qu'ils sont jamais allés chercher une pilule d'urgence à la pharmacie avec Bernadette qui est derrière toi et qui t'écoute. Enfin, je veux dire, c'est...
Et qui connaît,
Toute
tes
ta
parents.
Vie, qui connaît tes parents, qui connaît ton mec. Enfin, je veux dire, c'est une blague. C'est se défausser. C'est beauté en touche. C'est une pirouette rhétorique qui est, encore une fois, moi, je trouve assez malhonnête et un peu triste de... Ouais, je trouve ça triste, en fait, de considérer nos relations et nos sexualités de cette façon, comme étant de la... Alors là, je parle avec les mains, donc c'est plus difficile à la radio, mais étant comme quelque chose de variable d'ajustement.
À reléguer. Et c'est aussi que toutes ces questions-là, tu le disais, vont être reléguées à la question intime, privée, alors qu'on sait que c'est le lieu des violences également. Du coup, il y a un vrai paradoxe et une vraie dangerosité.
Au planning familial, il nous arrive, pas qu'au planning familial, dans les centres de santé sexuelle, d'avoir des révélations de violence, de faire des signalements, des informations préoccupantes pour venir protéger les enfants qui vont nous révéler des violences. Ça nous arrive aussi d'accompagner et d'orienter les femmes victimes de violences, de viols, par exemple, soit vers les services policiers, soit vers les autres associations de prise en charge des femmes victimes de violences. On est vraiment un lieu de première révélation, en fait. Et on est aussi des fois un lieu de reconstruction où les personnes viennent nous déposer des choses, nous parler des difficultés d'avorter quand on vient de se faire larguer par son mec ou parce que les violences sont débutées, par exemple. C'est pas des questions qui sont intimes, c'est des questions qui, enfin, ce sont des questions certes intimes, mais qui, encore une fois, l'intime est politique, qui nous concernent toutes et tous. Et puis, il n'y a pas que les victimes qui viennent nous parler. Hein. Vous savez, quand on reçoit d'une personne qui dit « En fait, j'entends ma voisine qui crie le soir et je ne sais pas quoi faire. » C'est pas facile de vivre avec ce genre de choses. C'est pas facile d'être témoin, de voir, d'entendre et de soupçonner. On est aussi là pour recueillir et aider les personnes qui nous parlent de ça. Enfin, je crois qu'on a un lien essentiel, en fait, que ce soit sur la santé, la sécurité ou l'aspect social et l'éducation, ouais, tout à fait.
Donc, en fait, on vous rétorque de manière un peu, on pourrait dire, de mauvaise foi, d'aller donc plutôt vers les laboratoires, les pharmacies, de quoi la police alors aussi, qu'il faudrait former également à ça.
Oui, alors, et puis en plus... Déjà, là, tous les agents de police ne sont pas formés, même si effectivement, il y en a de plus en plus formés. Mais vous croyez quoi? Que les femmes, elles vont commencer par aller porter plainte à la police? Les enfants, ils n'ont pas le droit d'aller à la police sans leurs parents. Bah, quand c'est les parents, en fait, qui sont violents, comment on fait? En fait, justement, on est là pour accompagner les personnes, pour les aider à passer le pas, si et uniquement si elles le souhaitent, d'ailleurs. C'est une question, en fait, de cohésion et puis de travail partenarial. On travaille avec la police travaille avec nous. Enfin, je veux dire, il y a un an de ça, on a fait une réunion entre toutes les salariées du planning familial et la police qui travaille sur les questions de violences faites aux mineurs, avec la gendarmerie d'ailleurs, c'était pas la police. Enfin, vous voyez, c'est des travails où
bien sûr, oui,
c'est d'équipe. La police ne travaillera pas seule et puis bon, ben, au moment, on peut pas encore travailler sans la police non plus, en tout cas. Les laboratoires nous appellent pour nous poser des questions sur les IST et savoir où est-ce qu'ils peuvent nous orienter. Nous, on appelle les laboratoires pour savoir comment est-ce qu'on peut faciliter un dépistage. C'est un travail d'équipe, en fait. Et c'est pas en supprimant un membre de l'équipe qu'on va être plus efficient, pour reprendre les termes de Madame Mouton.
Du coup, c'est un travail d'équipe. Donc là, on propose de retirer un maillon important de ce travail partenarial, mais aussi une forme d'expertise, c'est-à-dire que vous êtes un lieu de référence, on l'a dit, et d'expertise parce que vous êtes formé. Et
exactement.
C'est encore une fois dénigrer la formation que vous avez.
Oui, je ne vais pas revenir sur le travail incroyable que font les médecins, les sages-femmes dans les centres de santé sexuelle, qui sont évidemment formés. Et nous, les conseillères conjugales ou les animatrices de prévention, on bénéficie également d'une formation, pas de 3 jours. Hein. C'est une formation de plusieurs centaines d'heures. Moi, c'était une formation de 2 ans, par exemple, que j'ai effectuée à Marseille. Oui, on a une expertise et concrètement, tous nos partenaires, que ce soit, on parlait des collèges, des lycées, la MFR, la MGEN qui nous appelle pour nous poser des questions de comment est-ce qu'on gère? Est-ce qu'on peut vous envoyer cette personne-là? On ne sait pas comment répondre à telle ou telle question. Ah, aujourd'hui, on a des doutes quand on parle du VIH de cette façon. Est-ce que vous pouvez nous aiguiller? J'interviens à la PJJ, par exemple. Ces questions-là, elles sont aussi très prégnantes et les éducs sont en demande d'information.
Parce que souvent, ils sont démunis. Il faut le dire que les professionnels qui sont en première ligne, enseignants, enseignantes, infirmières scolaires, éducateurs, éducatrices, même dans l'éducation populaire, les animateurs et les animatrices qui, eux, ont des relations de confiance avec les jeunes,
exactement,
avec les enfants, des fois peuvent aussi recueillir des paroles dont ils ne savent que faire et ils vont se tourner vers des personnes formées, quoi.
Ouais, tout à fait. Et puis même les éduques, les profs nous disent, nous, on a quand même pas mal de représentations. La dernière fois, j'en discutais encore une fois sur le VIH. Aujourd'hui, il y a un traitement qui permet de ne plus être transmissible. Nidic n'était pas au courant, il m'en parle, on en discute. Et c'était vachement intéressant comme échange d'informations. On a des compétences dans nos domaines et ces compétences, elles sont complémentaires. On peut pas juste les faire disparaître et espérer qu'ensuite ça va bien se passer. Ça se passait pas bien avant, faut pas croire. La parole se libère, mais par contre, la violence, elle a toujours été là.
C'est ce que j'allais dire. On est quand même là la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, s'est tenu le procès d'Adèle Haenel, qui a été reconnue et qui a donné aussi de sa position à elle, de sa place à elle, une vague d'espoir peut-être pour des enfants victimes ou des femmes ou des hommes d'ailleurs, des personnes dont l'amnésie traumatique se lève des années après. Effectivement, on pourrait se dire que là, c'est un recul, quoi.
Ben complètement. Et en fait, c'est pas parce qu'on a, il y a deux trois personnes, et je suis ravie pour Adèle Haenel, gagnent leur procès, qu'on l'a toute gagnée. Hein. Aujourd'hui, je vais pas dire un chiffre parce que j'ai peur de me tromper, mais le taux de condamnation pour plainte suite à des violences sexuelles, franchement, il est minable. D'accord. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants, beaucoup d'hommes aussi, qui sont victimes de violences, qui veulent pas aller à la justice parce qu'elles ont trop peur et parce qu'elles s'appellent pas Adèle Haenel. Enfin, il y a quand même aussi un rapport là qui est important. Ce qu'on dit, moi, ça me rappelle que pendant le débat d'orientation budgétaire, Madame Mouton a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé d'efficience. On parle d'efficience pour pas dire le mot rentabilité quand on parle des services publics. Mais ce qui aujourd'hui doit conduire l'action sociale, l'action publique, c'est d'abord et avant tout l'humain. Et si je dois prendre une heure avec une personne pour pouvoir l'amener à parler de ce qu'elle ressent, de comment elle se vit, comment elle se voit et comment elle s'imagine plus tard, eh bien, moi, j'ai le temps de prendre une heure parce que justement, mon objectif, c'est pas d'être efficiente. C'est d'être dans la relation humaine. Et en tout cas, moi, c'est ce qui me semble. Peut-être que j'ai craqué. Mais que c'est quand même au cœur d'un service public. C'est le cœur du travail associatif.
C'est là où la logique libérale s'infiltre même dans la prise en compte des services publics. Quand on est sur de la tarification à l'acte, quand on est sur de l'efficience alors qu'il s'agit de services publics.
Mais c'est ça. On nous donne comme argument que l'hôpital de Die avait fermé parce que, par exemple, les professionnels de santé ne faisaient plus suffisamment leur acte, donc perdaient leurs compétences. Alors déjà, au-delà du mépris total que c'est pour toutes les personnels de santé qui se lèvent bien aussitôt, bien plus que Bernard Arnault probablement derrière. De quoi on parle ? Pour la petite blague, on a pu dire qu'on n'allait pas mettre le feu à la Drôme pour s'assurer que les pompiers continuent à effectuer leur travail. C'est pas ça le service public. On sait faire notre travail. Et d'ailleurs, on sait compter nous aussi. Du coup, on y voit bien que sur les économies, les chiffres n'y sont pas. Il va falloir un peu éclaircir cette information-là, quoi.
On arrive vers la fin de ce moment d'interview. Gladys, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rappeler ? On va aussi donner la question de la pétition qui est en cours. Ouais. Pour les auditeurs, auditrices que ça a alerté. Peut-être que vous n'étiez pas au courant de cette situation et c'est notre devoir de vous en informer. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Quel levier il nous reste ?
Alors effectivement, au planning familial et en soutien au centre de santé sexuelle départementaux, nous avons lancé une pétition que vous pouvez retrouver sur nos Insta. Si vous n'avez pas Instagram, ce que je conçois tout à fait, n'hésitez pas à nous interpeller, que ça soit au planning familial directement ou dans les réseaux militants ou ailleurs, pour qu'on puisse vous la faire parvenir. Et nous, on continue à lutter. En tout cas, c'est une lutte qui commence et qui n'est pas prête de s'arrêter. Il va y avoir, on espère, des rendez-vous avec Madame Mouton et Madame Adjarib, qui est
l'élu
de la santé, pour voir si en fait il y a encore des marges de manœuvre, des marges de négociation. Et puis on alerte au niveau national, on parle dans les médias. Aujourd'hui, ça part peut-être de la Drôme, mais c'est vraiment tous les Français et les Françaises dans l'Hexagone, dans les Outre-mer qui sont concernés. On ne fera pas et on ne laissera pas les droits sexuels et reproductifs, les droits des minorités de genre, les droits des femmes, des enfants, des personnes en situation de handicap reculer. En tout cas, on ne va pas se laisser faire. Voilà.
Et puis moi je rajouterais quand même que tant que ces droits sont attaqués, quelles que soient d'ailleurs les attaques, c'est du travail qui est fourni. Je pense au moment où on a eu au niveau de la radio des coupes budgétaires sur le fonds de soutien à l'expression radiophonique, et c'est de l'énergie qu'on met à contrer, à se défendre, à lutter, et qu'on n'est plus en train de faire notre travail premier. J'imagine que les heures que tu passes à donner de ton temps pour informer, pour continuer à lutter, c'est du temps où déjà d'une c'est inquiétant, c'est angoissant parce qu'il s'agit quand même de vos postes qui sont menacés, et en plus on est toujours en réaction d'attaque au niveau institutionnel.
Oui, alors déjà ce matin je suis bénévole, évidemment militante, je préfère même dire. Effectivement, ça, on en parle aussi en équipe, que du coup on a le cerveau un peu divisé en deux et qu'on continue notre travail, on continue à accueillir des personnes qui ont besoin de notre aide, et parfois on se sent un peu sur le pas forcément toujours à 100% dans notre écoute. Ça peut faire un petit peu peur, donc heureusement qu'on est une super équipe, qu'on travaille beaucoup ensemble, qu'on se prend des moments pour discuter, pour être toujours efficiente et humaine face à nos publics et à nos usagers et usagères. Mais ouais, c'est pénible. Et d'ailleurs, je te remercie de parler de ce qui se passe à la radio, parce que je crois qu'il est méga important qu'on fasse, encore une fois, la convergence des luttes. Mais ce qui se passe dans la culture, ce qui se passe dans la santé sexuelle, encore une fois, c'est pas anodin. Je pense que c'est lié. Et je pense que c'est important qu'on reste aussi en contact, quoi, le culturel, la santé, et puis tout ce qui est de la lutte pour les droits, quoi, en fait. C'est pas chacun de notre côté, on est vraiment ensemble.